Me voilà à une trentaine de kilomètres de Montréal, à Sainte-Julie, au beau milieu des chaînes de fabrication de l'usine Laplace. Il y a plusieurs semaines, je m'étais mise en tête de dénicher une usine automatisée qui utilise l'intelligence artificielle. On appelle ça une usine 4.0. Autour de moi, plusieurs bras robotisés très bruyants qui assemblent des sacs en plastique et des employés qui les testent en les faisant éclater. Ne soyez donc pas surpris du bruit, nous sommes entourés de machines. Je suis Chloé Gibert, je suis journaliste pour C'est Scientia et ce mois-ci, je me demande comment une usine familiale a pris ce virage 4.0, car Laplace, c'est avant tout une histoire de famille. Bonjour, enchantée.
On va malheureusement devoir mettre des petites charlottes. Je vais aller nous en chercher.
Benoît Brouillette, directeur général de l'usine Laplace.
Vous êtes accompagné de votre papa, c'est ça?
Ben enfin, on est une famille en affaires. La compagnie a commencé au tout début. La présidente, c'est notre mère. Ma mère, sa femme, qui est présidente depuis. Mon père, lui, s'occupait de toute la partie technique, développement.
Vous êtes arrivé à quel moment?
On peut dire.
Non, en fait, l'entreprise a une année de plus vieille que moi. C'est elle, mon aînée dans la famille. Mais sinon, moi, ça va faire 7 ans que je suis à temps plein pour l'entreprise. Presque 4 ans maintenant que je suis directeur général. Mais sinon, je me souviens qu'à 14 ans, j'étais sur le plancher de production à essayer de mettre des tapes sur des sacs ou redéfaire des mauvais montages. Donc, j'ai toujours été un petit peu dans l'environnement de l'entreprise aussi.
Où sommes-nous là exactement?
On vient d'entrer sur le plancher de production. Un peu derrière nous, il y a tout notre centre de production de nos machines. Comme on est équipementé nos propres machines, on les développe en interne. Ils sont conçus et assemblés ici.
Concrètement, vous pouvez m'expliquer ce que vous fabriquez ici?
Grossièrement, ce qu'on fournit, c'est une solution d'échantillonnage pour la détection de pathogènes dans l'industrie agroalimentaire. Notre produit de base est un sac stérile qui sert au transport des échantillons jusqu'au laboratoire pour en faire analyse. Le meilleur exemple que je pourrais donner serait un PepsiCo, Kraft, Coca-Cola, Mondou ou Maple Leaf, qui il y a quelques années est aussi un bon exemple. C'est des compagnies qui vont faire une production alimentaire ou une transformation alimentaire dans laquelle ils ont des chaînes de production massives, donc des risques de contamination de l'ensemble d'un lot. Au niveau environnemental, tout ce qui est test d'eau, on peut utiliser aussi des sacs d'échantillonnage avec du thiosulfate. On est très présent en pharmaceutique.
Et donc là, la spécificité aussi de votre entreprise, c'est qu'il y a 2 ans, vous avez fait ce qu'on appelle un virage 4.0. C'est-à-dire, en quoi ça consiste exactement?
L'univers du 4.0, souvent, on le décrit au niveau théorique comme étant tranchant, comme virage, ce qui est, selon moi, vraiment pas le cas. L'entreprise a eu une évolution technologique constante depuis ses tout débuts. Au tout début, en ayant déjà tout le volet d'automation qu'on dit 2.0 et autres, où est-ce que c'est plus un humain qui fait un assemblage, c'est une machine à qui on lui donne le fardeau de faire le produit. Ce qu'on cherchait, c'était l'efficacité d'affaires, comment s'assurer que nos gens créent de la valeur pour la business et non pas soient pris dans des tâches répétitives qui servent à rien. Pour en venir jusqu'à il y a quelques années avec l'addition de vision, de robotique carrément, et que toute l'avancée de ces technologies-là nous ont amené à toujours chercher quel était le prochain outil qui nous permettrait d'offrir plus de valeur à nos clients ou de gérer plus facilement notre organisation. Et c'est là qu'est arrivé un petit peu toute la course au 4.0, l'intelligence artificielle et tout. Nous, on s'y est engagé vraiment pour répondre à un besoin.
OK. Eh bien, on va voir.
Pour l'instant, on a une seule machine qui a un système d'intelligence artificielle qui est en développement. Cependant, c'est le modèle MM qui est notre modèle standard. Dès qu'il va être terminé, on va le réappliquer sur les 12 autres machines qui sont similaires.
De l'extérieur, cette machine a l'air comme les autres, mais à l'intérieur, elle est pourtant très différente. Benoît et ses équipes ont changé ses moteurs pour les remplacer par des moteurs intelligents. Ils ont aussi ajouté des capteurs extérieurs pour contrôler la température ou la pression atmosphérique. L'objectif, c'est que la machine prenne le relais de l'employé.
L'opérateur devait faire, c'était à tous les 125 sacs, va prendre un sac en échantillon, faire un test d'éclatement dessus pour s'assurer que la scellée est bonne. Et ensuite, faire une inspection rapide au niveau de la bande du fermoir et des impressions sur l'ensemble des sacs. Parfois, le défaut, on ne veut pas nécessairement le voir. On veut le prédire, on veut l'anticiper. Et c'est là où est-ce que nos capteurs, nos sensors sont capables de dire « Hey, regarde, cette pièce-là n'est pas retournée à sa position au complet, elle a eu un blocage. Hey, ce moteur-là a utilisé un petit peu plus d'énergie que ce qu'il devrait. Il doit donc avoir de la résistance qui prenait de la désynchronisation. » Donc, c'est vraiment dans la quantité d'informations qui rend l'intelligence artificielle intéressante. Un humain, au bout de sa machine, ne peut pas gérer cette quantité d'informations-là et ne peut donc pas être prédictif sur la qualité du produit. Comme tout ce qu'ils font, c'est une vérification en toute fin du produit final. Ils ne savent pas comment ce qui a été constitué. La machine, elle, avec tous ses capteurs, va être capable d'anticiper en connaissance de tendance, dire hey, « quand je vois ça, dans 4 sacs, je suis bon ».
Si je comprends bien, le sac va passer, la machine va détecter s'il y a un défaut.
Oui.
Une personne humaine, un employé, va pouvoir voir ce que la machine a pointé. Et est-ce que la machine peut se corriger toute seule?
En ce moment, non, ça reste dans l'apprentissage à monter. Le grand défi, souvent, qui est oublié en AI, c'est la quantité de données requises pour le faire. Souvent, les gens qui se lancent en AI disent « Ben oui, j'en ai des données, il n'y a pas de trouble. » Est-ce que ta donnée a été colonisée adéquatement? Est-ce qu'elle va être pertinente? Est-ce que tu as tes réponses pour pouvoir créer l'avantage? Souvent, on se rend compte que la base de données qu'on pensait avoir n'est pas si bonne que ça. Donc, on doit régénérer une base de données qui est complète et qui est adaptée vraiment aux besoins.
Et vous, est-ce que vous pensiez qu'il y a 33 ans, que vous êtes embarqué dans cette aventure, qu'il y aurait de l'intelligence artificielle 33 ans après dans votre entreprise?
C'est sûr que ça ne ressemble pas à ce que je m'attendais.
Marc Brouillette, le père de Benoît, qui a créé l'entreprise avec sa femme en 1987.
C'est-à-dire?
Quand on pense à l'avenir, on voit les voitures qui volent, etc., mais ça arrive jamais aussi vite qu'on le pense. C'est jamais aussi simple non plus. Alors, je me souviens pas ce que je pensais à l'époque, mais c'était sûrement pas ce que c'est aujourd'hui. Ça devait être plus beau, ça devait être plus facile. Mais ça demande encore des efforts.
Ce virage 4.0, vous auriez pu l'initier sans l'aide de votre fils?
Ça aurait été beaucoup plus long. Je dirais qu'il est arrivé ici avec des pas de fait que nous, on n'avait pas encore fait. Dans l'univers virtuel, c'est un très grand initié, ce que moi je ne suis pas. Je ne suis pas du tout. Je peux tout amener au virtuel, mais une fois qu'il est rendu dans le virtuel, je dois céder le pas. Déjà là, quand on est arrivé à la programmation des automates, très rapidement, j'aime pas faire du code. Et l'informatique, pour moi, c'est un synonyme de code sur code sur code. Alors, je suis pas très... J'ai jamais été attiré. Mais je comprends. Puis j'apprécie l'intérêt des autres. Puis comme je disais plus tôt, tout le monde a sa spécialité. L'idée, c'est d'avoir l'ouverture d'accepter les suggestions des gens qui sont plus qualifiés que nous dans tous les domaines.
Est-ce qu'il y a des salariés ici, des employés, avec qui vous travaillez depuis le début, qui sont encore là?
Non. 33 ans, c'est très long.
Il n'y a que vous?
Oui.
Chantal, qui a fait...
On peut aller la voir, Chantal, pour lui poser quelques questions?
Tout à fait.
Donc, expliquez-moi un peu, le Chantal, vous la connaissez depuis combien de temps? Elle est arrivée quand?
Chantal me connaît depuis que je suis à peu près 4 pieds.
Bonjour.
Elle a tout fait ici.
Donc, ça fait combien de temps? Bonjour, Chantal.
Bonjour. Enchantée.
Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ici, que vous travaillez ici?
20 ans.
Vous avez évolué, vous avez fait beaucoup de postes.
Il y a 3/4 des postes.
Et quand vous avez vu arriver ces machines, ces robots, maintenant, il y a de l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous a fait peur? Vous vous êtes dit que ça pourrait peut-être remplacer certaines tâches que vous faisiez avec vos collègues?
Au début, je vous dirais que oui, il y avait une petite crainte, mais en le voyant, ça a été différent. C'est plus un coup de main que ça nous donne aux employés sur les machines ou nous ici au shipping. C'est une énorme évolution pour nous. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de moins de remplissage de papier, donc plus de temps pour le travail. Donc, mais tu sais, sinon, les nouvelles machines, tu sais, c'est beaucoup de technologie. Tu peux plus toucher à apprendre, mais quand même, bien, c'est une belle évolution.
Merci beaucoup, Chantal. Merci
à vous. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie.
Travailler avec des machines de plus en plus intelligentes, un peu touchy à apprendre, selon Chantal. Et pour les autres employés, ils sont 120 au total à travailler dans cette usine. Ont-ils déjà commencé à être formés à ces nouvelles technologies?
Ce qu'on est en train en ce moment, c'est de reformer les gens. Depuis les débuts au niveau du projet AI, on a revu en même temps que la révision des processus de qualité tout le livre de formation, si on veut, pour être capable d'aller vers une formation plus standard, pour progresser de la formation mentorat, vraiment une formation pédagogique, puis être capable de faire une embauche plus rapide ou un meilleur contrôle de nos embauches. Jusqu'à présent, il n'y avait pas nécessairement de plan de formation structuré autre qu'en étapes. Demain, cependant, on s'en va vers un plan de formation en 4 étapes où est-ce qu'on essaie même d'amener notre employé qui commence sous forme d'emballeur à opérateur, opérateur certifié, jusqu'à mécanicien même. Donc, on veut qu'il soit capable de faire des interventions mécaniques sur la machine. C'est un petit peu dans l'objectif, comme Hugues en parlait tantôt, un médecin de machine. C'est, son but n'est plus « je supporte la machine, je m'assure qu'elle est en santé et qu'elle produit bien ». Donc, comprendre les processus mécaniques, comprendre les setups, comment ils sont faits, et en même temps permettre à mon équipe mécanique de se concentrer sur le développement de nouveaux équipements ou d'interventions lourdes sur les machines et permettre à mon opérateur, lui, de s'occuper de son bébé.
Mais alors, du coup, vous avez besoin de personnes qui sont capables de faire ces fameux médecins, et c'est-à-dire qu'ils ont besoin de des compétences que peut-être ils n'avaient pas besoin avant.
Oui, tout à fait. Mais...
Donc, vous n'embauchez pas le même genre de personnes que vous pouviez embaucher avant?
Pas nécessairement. Moi, j'ai une forte croyance, c'est que mes employés de plancher sont ici majoritairement des mères monoparentales avec 2 enfants qui ont envoyé à l'université. C'est des gestionnaires incroyables qui sont capables de gérer des défis beaucoup plus grands que ce à quoi on les envoie. Fait qu'au contraire, c'est comment est-ce qu'on fait pour accompagner cette personne-là, comment est-ce qu'on fait pour développer un système de formation qui leur permet d'évoluer. Il y en a qui ont un peu moins la vision spatiale, mais c'est comment est-ce qu'on développe des outils pour ces gens-là pour être capable de savoir intervenir quand même. Fait que c'est notre devoir à nous de trouver une méthode pour être capable de les faire progresser davantage et non pas essayer d'engager un paquet de petits mécaniciens. Ça serait surqualifié pour un paquet de petits mécaniciens. Je préfère avoir des opérateurs que j'entraîne, que je forme, que je développe à devenir meilleur et que si jamais ils quittent mon entreprise, ils le font parce qu'ils sont devenus des meilleures personnes qui ont des meilleures opportunités d'affaires.
Un virage hautement technologique que prennent de plus en plus de compagnies québécoises. D'ailleurs, plusieurs enquêtes prévoient qu'un travailleur sur 10 au Canada verra son emploi complètement renouvelé dans les prochaines années à cause de cette révolution technologique. Les robots intelligents sont-ils destinés à nous remplacer petit à petit?
J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement, se dévoile de mes doigts de palper.
Le but n'est pas d'amener de la technologie pour couper la moitié de mon staff, c'est d'amener de la technologie pour doubler mon staff puis quadrupler ma valeur.
Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. De la matinée et les vacances.
C'est absolument là où est-ce que je pense que la culture est meilleure chez nous et qu'ils la voient bien. Ils se sentent pas menacés par un robot, se sentent pas menacés par un robot collaboratif ou une étape qu'on leur retire au dépens de leur job parce qu'ils savent qu'il y a plus qui va venir. Et c'est une entreprise, oui, il y a tous les processus, oui, il y a tout le produit, les avantages compétitifs, mais elle est constituée d'humains. Et si nos humains sont mobilisés, si nos humains veulent aller plus loin, on va générer beaucoup plus de valeur. Puis la technologie va les aider à le faire. Fait que c'est essentiel d'avoir un discours qui va dans ce sens-là avec notre main-d'œuvre. C'est essentiel de l'avoir aussi avec nos gestionnaires qui veulent amener ces projets-là. Parce que si en partant, on arrive avec un projet avec l'intention de couper des postes, c'est sûr qu'il va y avoir de la résistance à l'interne. Si on arrive avec un projet pour dire « Hey, on s'en va dans une grande aventure ensemble, on va essayer des choses, on va découvrir, on va apprendre », naturellement, les gens veulent embarquer avec ça.
Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer.
séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Une grande aventure technologique initiée il y a 2 ans par la famille Brouillette. L'année dernière, Benoît, son père et leur équipe ont fabriqué près de 70 millions de sacs quand il en sortait à peine 2000 à la création de l'entreprise. Un cheminement qui peut donner des idées à d'autres, à des petites entreprises qui voudraient passer eux aussi ce virage 4.0.
On voit les crailler dans le local qui est tellement sale qu'en temps normal ça aurait dû déclencher une syndicale, mais que dalle. Depuis le dernier plan social, peur d'espérer mieux. On a vu à quoi ça mène de l'ouvrir dans cette PME, ça parle PMU.
En fait, j'espère que les entrepreneurs soient un peu rassurés de nous voir aller. En arrière, par exemple, on a souvent l'habitude de regarder les grands projets. Des projets qui sont donnés dans des entreprises de plusieurs millions, des tournants numériques, une entreprise qui est détruite, l'usine est reconstruite au complet pour servir le 4.0. Ce que je conseille, c'est arrêter de regarder les grandes entreprises 4.0 où est-ce que le gestionnaire est assis dans sa salle de bain avec son iPad à regarder ses chiffres. Regardez sur c'est quoi les chiffres, où est-ce qu'on les collecte, comment on rend ça plus facile sur le plancher, comment on associe les gens. Est-ce que ma personne est obligée de rentrer à main sur un papier continuellement des chiffres un après l'autre, ou je peux y faire un simple carnet avec un code-barre qui assigne ce qu'elle a besoin. Ça y prend 2 secondes au lieu de 8. Dans une année, le nombre de 8 secondes fait un poste au complet. Ramener à 2, c'est des vraies économies. C'est là que les entrepreneurs devraient commencer à regarder le passage numérique sur comment on peut faire des petits gains et non pas comment est-ce qu'on peut réinventer la roue. Vous ne la réinventerez pas la roue d'un seul coup. Ça va être un projet tellement grand que ça va finir par aller mal. Avec des petites choses, c'est comme ça qu'on l'a fait ici, continuellement, des petits moves, des petites choses qui nous ont confirmé qu'on allait dans la bonne direction ou qui nous ont confirmé qu'on s'était royalement planté, mais c'était pas cher. Fait qu'on peut réessayer quelque chose d'autre puis trouver vraiment les gains pour être capable de se développer vers ce virage-là. C'est un virage qui n'est pas tranchant, c'est un virage qui est continu, qui se prend dans les petites activités de l'entreprise, pas juste dans les grandes.
C'était une immersion au pays de l'automatisation. Un docu-vin écrit et réalisé par Chloé Gibert et la rédaction de C'est Science IA. Dans ce balado, vous avez pu écouter L'usine de la canaille, Je travaille à l'usine de Claude François, Les mains d'or de Bernard Lavillier et Ma petite entreprise d'Alain Bachung.
C'est science. IA.